Chers frères et sœurs, chers choristes des 20e estival qui avaient rempli cette église de vos chants durant cette semaine, il y a 10 ans de cela, j'ai cessé d'écouter de la musique sacrée occidentale. Et pourtant, durant 3 décennies, je m'étais réjoui à écouter les chorales ou divers enregistrements. J'avais bénéficié de l'amitié très précieuse d'organistes. Mais j'ai voulu devenir sourd à cette musique. J'ai voulu qu'un silence plus grand se mette dans mon cœur afin que, lorsque je suis parti définitivement à Bénarès en Inde, je puisse être disponible à accueillir une autre langue, une autre culture, et surtout une autre musique. Et je dois dire que le Seigneur m'a comblé bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, tant l'Inde est riche de multiples traditions musicales. Pour ne citer que la tradition du Nord, la tradition hindoustanie avec ses fameux ragas qui sont chantés selon les heures de la journée qui changent selon les saisons. Pour ne parler que de cette musique, elle est un dialogue entre l'instrument principal ou la voix du chanteur, l'instrument pouvant être le sitar par exemple, dialogue entre l'instrument principal et les tablas, c'est-à-dire les percussions qui vont donner le rythme. Et dans cette musique, il n'y a pas de partition, rien n'est écrit d'avance. Tout est laissé à la grâce du moment, la grâce qui passe dans le chanteur, dans le musicien, et la grâce qu'il passe dans le public, chanteur et public ne faisant plus qu'un. Ce qui m'a beaucoup frappé et ce qui me frappe dans cette musique, c'est l'insistance donnée à la recherche de la note des origines et au rythme. Cette musique hindoustanique commence, la voix chante seule ou l'instrument joue seul sans les percussions. Et on commence en posant une note qui va être la base de tout ce motif, ce raga. Et le musicien va tourner autour de cette note très lentement. Et puis il va donner à cette note de plus ample développement, comme si cette graine semée, cette note originelle, était promise à une immense fécondité. Pour les Indiens dans l'hindouisme, cette note que cherche le musicien est le premier son qui a déchiré le silence lorsque la création a été émise. Cette création, dans toute sa diversité, est née de cette note, est née de ce son originaire que nous entendons derrière tous les sons, tous les bruits, que nous entendons lorsque les enfants pleurent, dans le chant des oiseaux, dans la rumeur des vagues. Ce son est toujours là et c'est ce son que cherche dans le raga, dans la composition musicale, le chanteur. Puis, après 20 minutes en solo, arrive le rythme avec les tablas. Le rythme, c'est la vie, c'est le temps qui passe. C'est ce qui nous est le plus intime, le rythme de notre cœur, diastole, systole. Le rythme de notre respiration, inspiration, expiration. Et toute notre vie est prise dans ces rythmes, le rythme des saisons, le rythme de notre vie qui grandit, qui atteint sa maturité, qui vieillit et qui meurt. Et lorsque cette note originelle rencontre le rythme, alors naît durant plus d'une heure d'interprétation sans aucune interruption, un déploiement d'une incroyable fécondité, d'une exubérance qui au départ fait perdre pied à une oreille occidentale, mais qui réjouit les Indiens qui ont grandi dans cette tradition. On contemple la vie qui se développe, la voix et le rythme ensemble. Et par moments, la voix s'arrête et laisse le rythme continuer seul. J'ai conscience qu'en essayant de vous décrire un peu de la musique hindoustanie, je vous fais entrer dans un monde qui vous est peut-être inconnu, mais ce sera peut-être l'occasion, par curiosité, rentrer chez vous, dans quelques enregistrements sur YouTube, de vous familiariser avec les ragas. Mais j'ai voulu citer cet exemple parce qu'il est, pour moi, la plus belle illustration de cette fécondité de la graine semée que nous avons entendue dans le prophète Isaïe et dans l'Évangile. Cette note originelle sur laquelle est basée le raga, la composition musicale dans le nord de l'Inde, c'est cette graine semée, et qui, avec le temps, avec le rythme, est promise à ce déploiement, est promise à cette fécondité exubérante. C'est l'image même de chacune de nos vies, appelée à porter de façon unique, un fruit qu'on ne peut pas remplacer d'une personne à une autre. C'est au cœur de la révélation chrétienne que nous avons découvert que nos vies sont uniques et appelées à cette fécondité, appelées à cette croissance. Si la musique indienne met en lumière ce caractère unique de nos vies, le monde occidental, à mon avis, nous révèle autre chose tout aussi important. Après ces lignes si pures, monodiques du grégorien, qui ne cessent de nous hanter et qui hanteront encore de longues décennies les compositions d'art sacré, après les lignes pures du grégorien, vous le savez, il y a eu, à l'aube de la Renaissance, cette naissance de l'harmonie. Des voix qui chantent ensemble et qui cherchent à entrer dans un commun accord et à créer cette beauté ensemble. Si la musique indienne souligne le caractère unique de nos vies, je crois que la musique occidentale nous a révélé ce caractère communautaire. Et je pense que lorsque l'on est entré en polyphonie au début du Moyen-Âge, il y a eu une christianisation bien plus importante qui s'est opérée dans la musique occidentale. C'est comme si la musique occidentale assumait cette révélation chrétienne encore plus profondément. Et pourquoi ? Parce qu'au fond, la musique occidentale, elle est mathématique. Peut-être beaucoup d'entre nous n'avons guère aimé les mathématiques à l'école. Mais comment n'aimerions-nous pas les mathématiques lorsqu'on les découvre avec la musique ? Et cette logique mathématique, elle nous renvoie à celui que saint Jean, dans le prologue de son évangile, appelle le Logos, le divin mathématicien, le divin musicien de notre foi, c'est bien le Fils qui va réintroduire dans cette création blessée cette logique de l'amour. Avec l'œuvre du Saint-Esprit, que Basile de Césarée, père de l'Église, appelait l'harmonie elle-même. C'est l'Esprit Saint qui va prendre possession de toute cette diversité et qui va la mettre ensemble afin de faire l'expérience d'une communion nouvelle, d'une communion qui est la communion trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit. Ce que les accords, ce que l'harmonie de la musique occidentale reflète, c'est cette communion du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est cette vie d'un commun accord de notre Dieu, Père, Fils et Esprit. Et je crois que vous, les choristes, c'est l'expérience spirituelle que vous faites. Vous commencez à vivre très profondément de la vie trinitaire. Lorsque chacun avec votre voix unique, vous donnez, vous offrez votre voix aux autres et à nous, l'Assemblée, vous écoutez l'autre, vous rentrez ensemble en synchronisation, seul et ensemble, unique et en communion. C'est bien cette expérience polyphonique qui nous révèle cette vie trinitaire qui nous est promise. Et je suis sûr que vous tous, les musiciens, vous avez eu ce pressentiment de cette beauté toujours plus grande qui nous est promise, celle à laquelle notre âme aspire. Et vous pressentez que vous n'avez pas épuisé toutes les harmonies, que d'autres musiques sont à venir, que d'autres accords sont à découvrir. À la fin du XVe siècle, comme peut-être un premier fruit de cette découverte de la polyphonie, le français Antoine Brumel a créé une messe à 12 voix, la Missa et Cetera Motus. Un siècle plus tard, en Italie, Alessandro Striggio a créé une messe à 40 voix indépendantes, 40 voix indépendantes unies ensemble. Ces grands maîtres de la Renaissance ont cherché à rejoindre cette liturgie céleste que nous révèle un peu l'Apocalypse. Ils ont cherché à percer cette musique que nous entendrons lorsque le voile sera tombé. Mais en créant ces messes vertigineuses à 40 voix, ils étaient encore loin de cette musique que le Seigneur dirige pour son bon plaisir. Car la musique que le Seigneur dirige depuis qu'il a créé le monde, ce n'est pas une musique à 4 voix, à 12 voix ou à 40 voix, mais c'est cette musique qu'il crée avec ces milliards de voix que nous sommes, que sont ceux qui nous ont précédés et que sont ceux qui viendront après. Tous uniques, tous insubstituables, mais tous appelés à entrer dans ce cœur que seuls les anges connaissent aujourd'hui. Et dans ce cœur, il fait advenir, ce chef d'orchestre divin fait advenir chacun à sa vocation propre, à son unicité. Il sait combien chacun est unique, même le plus humble, même le plus petit. S'il vient à manquer, quelque chose manquera à cette musique. Et en même temps, il est capable de tout harmoniser sans avoir peur des dissonances que la musique moderne nous a appris à aimer, sans avoir peur des accords vertigineux. C'est bien le mystère de l'Église qui est déjà le reflet de cette musique à venir. Cette Église qui unit tant de voix différentes, tant de destins, tant de vies différentes. Cette Église qui parfois fait des fausses notes, de la cacophonie, que nous voudrions nous boucher les oreilles parfois. Mais ce divin chef d'orchestre a la patience. Il sait que ses musiciens vont grandir et obtiendront un jour la grâce de vivre d'un commun accord. Et c'est bien ce que nous a dit saint Paul. La création tout entière gémit. Elle est encore dans cette cacophonie. Elle passe par les douleurs de l'enfantement, mais elle est promise à entrer dans la gloire des enfants de Dieu. Cette création gémit encore. Il faut que la graine semée en nous atteigne sa pleine maturité et que cette graine soit unie aux autres graines, que nos voix soient unies aux autres voix, que nos vies soient uniques, unies aux autres vies, pour faire advenir toute la beauté de la création. De cette musique à venir, de cette communion à venir, nos frères bien-aimés, les serviteurs, sont les témoins. Ils ont eu l'audace de vivre cette vie communautaire jour après jour, de chercher à vivre d'un commun accord. Ils savent que ce n'est pas facile. Ils savent que ce commun accord est le fruit d'une grâce qui nous est donnée. Mais ils savent aussi toute la patience des germinations. Et c'est ainsi qu'ils nous dévoilent ce vers quoi nous marchons. L'avènement de cette musique nouvelle, cette musique que saint Augustin appelait l'Alléluia du huitième jour. Le huitième jour, c'est la résurrection. Cette musique que Jean de la Croix appelait de façon différente. Jean de la Croix parlait cette musique promise, cette musique du ciel, comme de la musica caliada, la musique de silence, celle qui jaillit du silence et celle qui retourne au silence. On a tous fait l'expérience, et on l'a fait encore hier après-midi, à Saint-Jean-au-Bois. Lorsque les voix s'arrêtent, on est saisi par le silence et on fait l'expérience très forte d'une communion qui nous a tous pris dans un ravissement de la beauté. Cette communion, l'Eucharistie va nous en donner les arts aujourd'hui. Elle va nous donner de vivre sacramentellement cette vie ensemble, où chacun, tout en restant unique, est le membre d'un tout, le membre d'une communion. Et dans cette communion, le prêtre, avec le pain et le vin, va offrir chacune de nos vies uniques, chacun des grains uniques que sont nos vies, mêlés aux grains qui, broyés, deviennent le pain et qui, consacrés, deviennent le corps du Christ ressuscité. C'est cette expérience de la vie promise, de la communion trinitaire promise que nous allons recevoir maintenant dans le sacrement. Et permettez-moi ce petit post-scriptum à nos amis musiciens. J'ai découvert une chose en Inde, peut-être encore plus forte qu'en Occident. La musique indienne, la grande musique classique indienne, est toute entière vue comme un exercice spirituel, comme une liturgie, on pourrait dire. Elle a pour but de nous faire tous, nous, l'Assemblée, de nous faire tous communier au divin. Bien sûr, il y a de la technique, il y a des années d'apprentissage auprès du gourou, mais la technique n'a très peu d'importance par rapport à l'aventure spirituelle du musicien. Un musicien peut avoir une technique parfaite et être considéré en Inde comme un très mauvais musicien si cela ne jaillit pas de cette expérience vivante avec l'absolu. Et c'est pour cela que lorsque la technique commence à faiblir avec l'âge, que les Indiens ne vont pas déserter ces vieux chanteurs, mais au contraire, plus un chanteur est vieux, et plus il va être vénéré. Quand bien même sa technique a perdu de l'assurance, s'il est vraiment possédé par Dieu, alors à ce moment-là, comme le soleil qui se couche et éclate de beauté, le musicien qui vieillit, qui perd sa technique, s'il est possédé par Dieu, alors devient vraiment transparent. Il est capable d'être ce prêtre qui conduit l'assistance vers cette expérience de l'absolu. Je vous confie cela, chers musiciens, vous qui êtes appelés à nous entraîner dans la prière, soyez avant tout des hommes et des femmes de prière.